Voici les titres du journal.
27 millions de francs, c'est ce que dépensera le canton de Vaud pour entreprendre des travaux de protection contre les crues et de renaturation. Le Grand Conseil a validé 6 différents décrets en ce sens. Une cinquantaine de sculptures, installations ou expérimentations à découvrir du 1er juillet au 24 octobre à Aigle, Yvorne, Les Uns ou encore au Col des Mosses. Ainsi se présente l'édition 2021 de l'exposition Hélios Art Nature. À Berne, la question du nombre de conseillers fédéraux divise. Certains, dont la socialiste bernoise Nadine Massart, veulent augmenter de 7 à 9 membres. On entendra ces explications dans ce journal. En football, l'équipe de Suisse affrontera la France en 8e de finale de l'Euro. La Nati est fixée depuis hier soir sur le nom de son adversaire. Et en natation, le meeting du lac vivra sa 29e édition ce week-end à Vevey.
Et pour la météo, retour des cumulus et des orages cet après-midi et pour demain, des passages nuageux en matinée avant le retour du soleil. La météo en fin de journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour. Vaud investit pour ses cours d'eau, 27 millions pour être précis. C'est ce qu'ont accepté de dépenser les députés hier après-midi. Le montant total comprend 6 différents crédits, dont 3 dédiés à la protection des crues. Les communes d'Yvorne et Aigle sont concernées par la sécurisation de la Grande Eau et celle de Blonay, Saint-Légier, La Chiesa et la Tour de Paix par des modifications sur l'Ognonat. Précision avec la chef du département de l'environnement et de la sécurité, Béatrice Métro.
Au fond, le volet dédié à la protection contre les crues doit permettre de sécuriser d'importants secteurs d'habitation et d'activité dans les 3 régions mentionnées. On prévoit des interventions sur l'Ognonat et plusieurs de ses affluents. Et ce projet fait suite aux nombreuses inondations qui avaient touché les communes de Blonay, Saint-Légier, La Chiesa et la Tour de Paix en 2015. Donc c'est vraiment pour protéger les communes. Ce projet-là est dans l'intérêt des communes.
Ce ferreur, la Grande Eau, qui se situe en partie sur la commune d'Aigle, avait déjà été corrigé. Là, on revient avec quelque chose d'autre. Comment l'expliquer ?
Alors, le troisième secteur d'intervention, effectivement, se situe à Aigle et Yvorne, le long de la Grande Eau, dont 2 tronçons ont déjà fait l'objet de travaux effectués en 2016 et en 2018. Et cette nouvelle phase a pour objectif d'augmenter la capacité hydraulique de la rivière en traversée de la ville d'Aigle et en aval, entre le pont CFF et le Grand Canal. Donc, c'est toujours un objectif de sécurité.
Des ouvrages permettant la migration de poissons seront aussi entrepris, notamment à Châteaudet. Divers travaux d'entretien de cours d'eau représentant un linéaire total de 65 km seront également menés. Les communes concernées verseront au total 1,8 million de francs et la Confédération 15 millions. Un sujet réalisé par Margot Reguin. Le Conseil d'État du canton de Vaud présente son agenda 2030, un outil qui permet de démontrer mais aussi de renforcer les actions gouvernementales. Il se compose en 2 parties, l'une thématique et l'autre transversale. La première dévoile un panorama des engagements de l'État autour de 10 thèmes, dont entre autres le développement territorial, l'énergie et le climat ou encore la santé. La partie transversale, quant à elle, énonce 11 mesures afin de renforcer la durabilité à travers 3 axes : garantir la cohérence de l'action publique, développer la coopération et les échanges interdépartementaux et documenter la situation sur le territoire cantonal et l'impact des actions de l'État. Mettre sur pied cet agenda 2030 était également l'un des objectifs du programme de législature 2017-2022 du Conseil d'État vaudois.
Les intempéries de ces derniers jours ont laissé des traces au Diableret.
Hier, en fin de journée, les précipitations ont provoqué le débordement d'un ruisseau puis d'une coulée de lave torrentielle vers l'église. L'accès principal au village situé sur la commune d'Ormont-Dessus est dorénavant obstrué. 4 jeunes ont été momentanément bloqués dans un refuge non loin du sinistre. Ils ont pu être évacués sans incident dans la soirée. Une 20aine de pompiers du SDIS alpin sont intervenus, aidés par les employés des services communaux. Les travaux pour déblayer la route doivent débuter ce matin. La réouverture du tronçon est prévu pour demain, courant de la journée.
Une véritable galerie d'art à ciel ouvert dans le Chablais vaudois.
C'est l'exposition Hélios Art Nature version 2021 qui se déroulera du 1er juillet au 24 octobre prochain avec Yves Terrani, 2 nouveautés par rapport aux 3 précédents rendez-vous.
La première de ces nouveautés, c'est la désignation d'un hôte d'honneur, la Pologne en l'occurrence, qui a délégué Jerzy Ciotka Kedziora, lequel proposera 9 sculptures. Hier, lors de la présentation d'Hélios 2021 à Yvorne, l'ambassadrice de Pologne à Berne, Iwona Kozlowska, est venue dire la fierté et le privilège que cela constitue pour son pays d'être invité à un tel événement. Et puis, deuxième nouveauté, la nomination d'un parrain. Il s'agit du sculpteur Igor Ustinov, 65 ans, fils de l'immense comédien, scénariste, metteur en scène et écrivain britannique, Sœur Peter Ustinov, décédée en 2004 à Genolier dans le canton de Vaud. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Igor Ustinov est heureux d'endosser le rôle que lui ont confié les organisateurs d'Elios Art Nature, à savoir renforcer la démarche artistique et développer de nouvelles idées.
C'est un honneur pour moi. Ça montre que j'ai déjà un certain âge, parce que ça fait bientôt 40 ans que je suis sculpteur et que j'expose un peu partout. Et je suis ravi parce que vraiment c'est une exposition extraordinaire, dans un paysage extraordinaire, organisé par des gens très très sympathiques. Et je pense que pour se déconfiner, ça va être vraiment de voir ces traces d'humanité dans la nature et dans la ville, ça va nous aider.
En tant que spécialiste, quel est le regard que vous portez sur cette édition, puisqu'on a pu voir des images de toutes les œuvres ?
Elle est très variée. Ce qui est intéressant, c'est de voir le langage des sculpteurs est différent. Leur sensibilité est différente. Il y en a certains qui sont plus proches de la nature, d'autres plus proches de l'humain. Mais en fait, c'est cette rencontre qui est fascinante. On se questionne soi-même sur son humanité quand on voit le questionnement des autres.
Le thème choisi pour cette édition 2021 d'Elios Art Nature, c'est la transformation. Patrick Burguin est le président de l'association Elios Culture. Il nous explique comment son équipe et lui en sont arrivés à choisir ce sujet.
Je crois que c'était un thème d'actualité avec tout ce qui se passe dans la société, avec le Covid, avec la transformation de nos habitudes, etc. C'était un thème qui se prêtait bien. Et puis la transformation fait partie de l'histoire de l'humanité, de toute l'évolution. Donc, et puis c'est un thème qui est applicable dans de multiples domaines, que ce soit la transformation dans la nature, la transformation des matières, la transformation des énergies, des idées, etc. Donc c'est quelque chose qui nous a parlé assez rapidement quand on parlait du thème. Et c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction pour le fil rouge de l'exposition de cette année.
Une exposition qui propose une cinquantaine d'œuvres réparties entre Aigle, Ivorne, Lézin ou encore le Col des Mosses, elle porte la signature de 32 artistes. Responsable de la sélection et de la scénographie, Marie-Hélène Eusgem nous dit comment sont choisis les sculpteurs.
On a la chance d'avoir une grande expérience et un très grand réseau d'artistes en contact permanent du fait de nos événements, ce qui nous permet de pouvoir aller chercher, proposer, mais aussi d'autres artistes qui nous proposent des collègues sculpteurs en nous disant peut-être que cet artiste sur ce thème-là pourra vous proposer quelque chose d'intéressant. Donc on reçoit des dossiers avec des propositions d'œuvres. Souvent, comme on vous l'a dit, il y a 80% d'œuvres qui sont nouvelles, donc qui peuvent être proposées sous forme de croquis au moment des sélections. Et puis ensuite, on a des comités de sélection avec différentes personnes. Et puis on sélectionne les œuvres qui nous paraissent le plus en adéquation. D'une part, avec le thème, en termes de qualité bien évidemment, de technique artistique et puis aussi de résistance parce que c'est une exposition en extérieur et donc il faut que ce soit des sculpteurs qui aient l'habitude d'avoir la technique de présenter des œuvres monumentales en extérieur.
Et parmi les 32 artistes invités, 7 seulement sont suisses. Alors, n'est-ce pas frustrant d'en compter si peu ? On retrouve Patrick Burguin.
Notre créneau, ce n'est pas forcément de valoriser l'art, les artistes suisses, même s'il y a des magnifiques artistes dans la région. On a Béart qui mise principalement sur les artistes suisses, donc on se voit comme complémentaires. Puis nous, on ne voit pas forcément l'origine de l'artiste, on voit l'œuvre en elle-même, on voit son implantation dans notre région. Et puis on essaie de s'ouvrir et puis d'amener un maximum de diversité dans les œuvres. C'est ça qui est intéressant.
Elios Art Nature 2021, c'est donc à découvrir, que l'on soit randonneur ou simple amateur d'art averti, dès jeudi prochain au détour d'un sentier ou d'une ruelle du Chablais vaudois, dans des lieux permettant de jouer sur les contrastes entre les œuvres, leur environnement, qu'ils soient urbains ou alpins.
Merci Yves Terrani. Plus d'informations sur cette 4e édition d'Elios Art Nature sur le site internet www.elios.com. L'Office fédéral de la communication reconnaît le travail de proximité et d'information de Radio Chablais. L'OFCOM, qui délivre les concessions radio en Suisse, a effectué son monitoring des radios au bénéfice d'une quote-part de redevance. Le but est de contrôler que ces radios respectent leur mandat de service public. Pour ce qui concerne notre radio, les objectifs d'information régionale pertinentes sont largement remplis, avec plus du double du temps d'antenne requis par la Confédération. Les différentes catégories comme la politique, la culture, le sport ou les sujets de société y sont équitablement répartis. Pour rappel, Radio Chablais est une radio privée appartenant à l'association du Chablais. Elle partage son financement entre une part de redevance radio-TV, la publicité et le soutien des 28 communes des Chablais, Vaudois et Valaisans.
Les nuits glaciales d'avril ont ravagé les abricotiers valaisans.
Au point que 2021 figure parmi les 3 pires années de l'histoire, la pire sur les 30 dernières, indique à l'heure de la récolte l'interprofession des fruits et légumes du canton. En moyenne annuelle, le Valais produit 8200 tonnes d'abricots. Cette année, il n'y en aura que 1300 tonnes, détaille aujourd'hui à Keystone ATS le secrétaire général de l'IFELV, Olivier Borja. Une première analyse estimait que la perte des abricots pourrait atteindre 70%. Les dommages sont finalement plus importants que prévu. Et par ailleurs, D'ailleurs, il ne reste quasi rien pour la distillerie, ajoute le secrétaire général de l'IFELV. La perte pour le Luisey, star de l'abricotine, est estimée à 99%. Le Conseil d'État valaisan a approuvé la révision de l'arrêté sur l'exercice de la chasse dans le canton. Au lieu d'un arrêté tous les 5 ans, les chasseurs valaisans recevront désormais chaque année un document unique regroupant les conditions pratiques pour les saisons à venir. Cette révision contient également des modifications du règlement d'exécution de l'exercice de la chasse. Les principaux changements concernent la réalisation de tirs de régulation, mais aussi le type de munitions autorisées. Les horaires de circulation durant les premières semaines de chasse ont également changé. Ces révisions ont été menées en collaboration avec la commission consultative de la chasse qui regroupe notamment des représentants du milieu de la chasse et de la protection de l'environnement. À Genève, le service d'incendie et de secours est intervenu 47 fois en 24 heures en raison des orages. Les pompiers ont notamment mené une opération hier soir pour rechercher deux personnes qui faisaient du paddle sur le Rhône. Leur aventure se termine bien, les deux personnes ont été retrouvées saines et sauves à l'abri de l'orage, indique aujourd'hui le SIS. Les pompiers sont aussi intervenus le long du Rhône pour un peuplier de 25 mètres de haut qui est tombé sur trois voitures et un vélo.
Le nombre de frontaliers en Suisse a plus que doublé en 25 ans.
À fin 2020, quelques 343 000 frontaliers travaillaient en Suisse contre 140 000 au milieu des années 90. Presque tous viennent d'un pays voisin et la plupart travaillent dans un canton limitrophe. Mais c'est dans le canton de Genève qu'ils étaient les plus nombreux, plus de 90 000 en termes absolus. Leur part dans l'emploi total était par contre la plus importante au Tessin, d'après une étude publiée aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique.
Peut-on estimer que plus on est de sages, mieux on gouverne ?
À Berne, la question est un véritable serpent de mer. Différentes propositions se sont succédées ces dernières années dans le but de faire passer de 7 à 9 le nombre de conseillères et conseillers fédéraux. En 2016, la Chambre du Peuple avait enterré de justesse un projet en ce sens élaboré en commission. Le PLR et l'UDC avaient mené la fronde, soutenue par une partie du PDC. Mais pas de quoi décourager la conseillère nationale Nadine Massart. La socialiste bernoise a déposé il y a un an et demi une initiative parlementaire en ce sens. Pour elle, de nouveaux arguments peuvent peser en faveur d'un gouvernement à 9 membres. Les explications de Nadine Massart au micro d'Hélène Yost.
C'était la sélection 2019. Après la sélection, on a vu que 31% de la population ont voté pour une partie qui n'est pas représentant au Conseil fédéral.
Et ça, ça vous a choqué?
Oui, c'était un des arguments de vraiment intégrer toutes les forces politiques relevantes au Conseil fédéral. C'est aussi pour la cohésion de notre pays, je trouve, importante.
Pour vous, qui seraient les partis ou les partis de la population qui pourraient y gagner avec 9 conseillères, conseillers fédéraux?
Avec 9 conseillers, conseillères fédéraux, on aura plus de représentation aussi, vraiment des partis, des forces politiques relevantes, mais aussi des régions linguistiques, des sexes et de la langue. Les derniers arguments, ce n'est pas nouvel, mais aussi important, bien sûr.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Hélène Yost. L'initiative a déjà obtenu le soutien de la Commission des institutions publiques du Conseil national par 14 voix contre 9. La majorité des membres a estimé que ce projet permettrait aussi de faire baisser la charge de travail des ministres. La Commission sort du Conseil d'État doit s'emparer du dossier cet après-midi.
Les processus internes aux tribunaux fédéraux pourraient être plus transparents.
Les commissions de gestion des chambres fédérales proposent 11 recommandations concernant notamment la composition des cours appelées à statuer. Chargé d'évaluer ces processus, le contrôle parlementaire de l'administration les considère globalement bons, relève aujourd'hui les commissions de gestion dans un rapport. Les 4 tribunaux fédéraux ont édicté des règlements généraux et abstraits qui règlent la composition des cours et déterminent les critères objectifs applicables à la répartition des affaires. Les stocks de pommes de terre en Suisse ont diminué au point que l'Office fédéral de l'agriculture augmente de 5000 tonnes le quota d'importation en juillet. Il répond ainsi à une demande de Suisse Patate, la fêtière de l'industrie de la production, du commerce et de la transformation. Les mauvaises conditions climatiques en avril et en mai et la forte consommation des ménages due au Covid expliquent cette baisse du stock de pommes de terre, indiqué aujourd'hui l'OFAG dans un communiqué. La population a acheté plus de patates que d'habitude au premier semestre 2021 à cause des restaurants fermés. Fin avril, les ventes de pommes de terre étaient 30% plus basses à celles du même mois de l'année dernière, note l'OFAG.
À l'étranger, plus de 20 000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été recensées en 24 heures en Russie.
Il y a eu aussi 568 décès selon les chiffres publiés aujourd'hui par le gouvernement. Près de la moitié des cas ont été enregistrés à Moscou. La capitale russe a aussi enregistré 92 décès en une journée, un record depuis le début de la pandémie selon l'agence de presse publique TASS. L'explosion des cas de Covid-19 depuis la mi-juin est portée par le variant Delta apparu en Inde et réputé plus contagieux et plus virulent. Il représente près de 90% des contaminations dans la capitale russe. Alors que les dirigeants de l'Union européenne pourraient ouvrir la voie aujourd'hui à une reprise des sommets avec la Russie, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé une dangereuse divergence par rapport à la politique européenne de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. En football, le FC Sion et le Nouvelliste font la paix. Boycottés depuis 3 ans par le club, les journalistes du quotidien valaisan vont à nouveau avoir accès aux joueurs, aux membres du staff et aux dirigeants. Les deux parties ont fait cette annonce ce matin via un communiqué, mais aussi à travers une lettre ouverte aux supporters. Que ce soit le président Cédunois, Christian Constantin, ou le rédacteur en chef du Nouvelliste, Vincent Franière, tous se montrent satisfaits de ce retour à une situation normale.
Toujours en football, la Suisse sera opposée aux champions du monde en 8e de finale de l'Euro.
Après 3 jours d'attente, la sélection helvétique connaît désormais le nom de son adversaire pour son prochain match dans le tournoi. La Nati défiera la France lundi soir à Bucarest en Roumanie. Il s'agira d'un défi de taille puisque les joueurs tricolores ont remporté la dernière Coupe du Monde et font figure de grandissimes favoris pour le titre cette année. Reste que les Français risquent de connaître quelques problèmes au poste de latéral gauche. Leurs 2 joueurs sont blessés. Côté Suisse, il y a en revanche abondance de biens sur le flanc gauche de la défense. Cantonné au rôle de remplaçant, Loris Benito est la doublure de Ricardo Rodriguez, mais il sait qu'il doit se tenir prêt.
Je pense que le rôle il n'est pas sous-estimé, hein. C'est une situation difficile parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de possibilités, mais quand tu l'as, il faut la prendre, il faut être là pour l'équipe. Donc voilà, ce n'est pas facile du tout à gérer, mais je pense que le groupe, on est tellement serré, on est tellement bien ensemble que ça vit. Tout le monde a le sentiment de faire partie du groupe, de faire partie des 11 premiers, même si on ne joue pas. Donc c'est la force de l'équipe.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, David Lemos. À noter que l'équipe de Suisse n'a plus atteint les quarts de finale d'une grande compétition depuis 67 ans. Pour mettre fin à cette longue période de disette, elle devra donc se défaire de la France lundi à 21h à Bucarest.
La natation sera à la fête ce week-end lors du 29e meeting du lac.
Organisé par le club de Vevey Natation, l'événement se tiendra samedi et dimanche à la piscine de Vevey-Corso-Plage. Pour l'occasion, pas moins de 17 clubs de Suisse romande font faire le déplacement sur les bords du lac Léman. Cette année, tout comme l'an dernier, la manifestation a pu être maintenue, mais cette fois, le huis clos ne sera pas en vigueur. Ainsi, parents, famille ou amis pourront venir encourager les près de 500 nageuses et nageurs. La pandémie n'est toutefois pas complètement terminée. Des mesures sanitaires seront tout de même en place aux abords des bassins, comme le souligne le patron du meeting du lac, François Volet.
Alors effectivement, nous avons les spectateurs qui seront dans une zone bien définie avec des accréditations, traçage des personnes, possibilité de se restaurer sous une tente, mais avec les masques selon les mesures de la restauration bien sûr. Pour les nageurs et les jurys et bénévoles dans l'enceinte propre du bassin, on va devoir garder les distances toujours, essayer en tout cas, et porter les masques. Après, chaque club aura des zones définies pour se prélasser entre guillemets entre chaque course à ce niveau-là. Toujours avec des points de poste de désinfection répartis dans toute la piscine.
Ces mesures perturbent quand même une certaine organisation que vous avez l'habitude de connaître, puisque vous me disiez hors antenne aussi que par rapport aux entraînements, aux échauffements, les bassins seront limités pour les clubs à des moments définis. Ça amène quand même une des tâches supplémentaires pour un comité d'organisation de mettre en place toutes ces mesures-là, tant pratiquement qu'administrativement.
Effectivement, on a beaucoup de travail pour l'organisation à ce niveau-là, puisqu'il faut prévoir des laps de temps d'échauffement pour chaque club, pour pas que chaque club soit tous mélangés ensemble dans ces périodes d'échauffement. Ensuite, au niveau administratif, il y a beaucoup de plans, de mesures anti-Covid à présenter aux administrations, que ce soit cantonales et communales. Donc effectivement, c'est relativement lourd à ce niveau-là.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. La 29e édition du Meeting du Lac se tiendra ce samedi et dimanche à la piscine de Vevey-Corso-Plage. 17 clubs de Suisse romande sont attendus sur les bords du lac Léman.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Store Chablais, partenaire Stobag pour vos protections solaires et portes de garage. Storechablais.ch.
En ce début d'après-midi, les cumulus vont faire leur retour sur les crêtes et ensuite, eh bien, la tendance aux averses et aux orages reprendra d'abord en montagne, puis aussi en plaine avec des rafales d'orages probables à proximité de ces fameux orages que Météo Suisse nous annonce. Météo Suisse qui nous dit aussi qu'à partir de la soirée, une accalmie progressive semble se dessiner. Il va faire jusqu'à 20 degrés en plaine aujourd'hui, 17 à 1000 mètres. Pour demain, des passages nuageux en matinée, puis le temps deviendra assez ensoleillé. Quelques averses orageuses isolées seront possibles en montagne. L'après-midi, le mercure indiquera au minimum demain en pleine 13 degrés, au maximum 22 degrés, puis à 1000 mètres, on passera de 10 degrés le matin à 18 degrés au meilleur de la journée. La météo complète est à 6 jours, radiochablais.ch.